Seigneur Yann aussi, tu sais son contexte, tu sais qu'il est jeune, fais-lui grâce. Tu vois également Nadiège. Seigneur, ce sont des défis pour nous toujours et nous ne voulons pas les oublier, nous voulons faire corps avec eux et Seigneur, crier jusqu'au bout en vue de la guérison, Seigneur, et nous croyons que tu restes ce même Dieu. Tu fais grâce maintenant pour cette parole aussi, tu bénis Emeric, Seigneur, tu lui permets d'être vraiment à l'aise avec toi par le Saint-Esprit. Et Seigneur, merci pour cette parole, merci pour toutes choses, merci pour les ministères, merci pour les églises. Sois béni, Jésus. Amen. Alléluia.
Voilà, tout d'abord, bien, vous avez les salutations de l'Assemblée de Montargis. Que la grâce du Seigneur et la paix de Dieu vous soient multipliées. Ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous pour introduire ce message sur l'action de comparer, la comparaison. De tout temps, je pense que les hommes ont cherché à se comparer en examinant leurs ressemblances, mais aussi leurs différences. L'homme cherche par exemple à se comparer physiquement aux autres, peut-être aussi sa tenue vestimentaire par rapport à d'autres. Je pense aussi eh bien, à cette confrontation qu'il peut mettre au niveau de ses biens matériels. Voilà, il va comparer sa voiture avec un autre. Je pense que vous avez tous et toutes fait des comparaisons, ne serait-ce que quand vous allez faire vos courses. Vous comparez les prix, hein? On est d'accord? Voilà. Vous confrontez certains produits entre eux. Et je dirais bien, parfois, dans la famille également, eh bien, il y a des comparaisons qui peuvent être faites entre un enfant et puis un autre enfant. Même si on sait que chaque enfant est unique. Chaque enfant est unique, il n'y a pas deux enfants identiques. Chacun à son ADN. Chacun est unique et même si on prend des jumeaux et qu'on regarde leurs mains, eh bien les empreintes digitales sont différentes. Il en est de même lorsque on commence à comparer des églises entre elles. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais lorsqu'on rencontre voilà des frères ou des sœurs d'une autre église, eh bien je dirais que rapidement dans la conversation vient cette question: vous êtes combien dans votre église? Combien est-ce que vous êtes à venir le dimanche? Combien vous êtes à venir le mardi pour la prière? C'est le mardi, hein? Et puis voilà, on va comparer la taille de l'église à une autre église. Et puis même des fois, ça va au-delà de la comparaison. On va imiter par exemple, eh bien la salle. On va imiter entre guillemets le style de louange. Ou encore, on va reprendre le nom de l'église. Mais si au lieu de dire quelle est la taille de ton église, eh bien, si on disait parle-moi de l'impact qu'a ton église sur la ville ou sur le village là où Dieu l'a planté. Je pense que la conversation, elle prendrait une autre tournure. Et je pense qu'elle porterait également davantage de fruits. Au lieu de mesurer donc la taille de l'église, on mesurerait la taille de l'empreinte laissée par l'église dans le village ou la ville. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire déjà que l'église locale, elle est unique? L'église de Montargis ne ressemble pas à l'église de Sens et vice-versa, nous avons passé une petite année sur Briare. C'est la même chose. Chaque église est unique. Il n'y a pas deux églises locales identiques. Chaque église a son ADN. Chaque église a son empreinte qui lui est propre. Chaque église également a son histoire, son cheminement avec le Seigneur. Donc pour l'église, il n'y a pas besoin qu'elle se coule dans le moule d'autres églises. J'aimerais qu'on se souvienne de David et de Saül. Saül a souhaité mettre la tenue de combat, sa tenue de combat à David. Qu'a fait David ? Non. David, ce n'était pas un guerrier, c'était un berger. Ce n'était pas lui, en quelque sorte. Alors, eh bien, il n'a pas pris cette cuirasse. Il n'a pas pris cette épée. Il est parti avec sa fronde, ses pierres, mais surtout avec l'essentiel, le Seigneur. Une personne a dit, aux yeux de Dieu, il n'y a pas de petite église, ni de grand pasteur. Pas plus que de grande église et de petit pasteur. Je vous laisse également réfléchir à cette citation de Victor Hugo. N'imitez rien ni personne. Un lion qui copie un lion devient un singe. N'imitez rien ni personne. Un lion qui copie un lion devient un singe. Il y a donc dans chaque église locale des dons, des talents pour accomplir la mission qui lui a été confiée. Vous connaissez cette mission ? C'est vrai que, je dirais, chaque église a des limites, limites peut-être de locaux, peut-être qu'il y a une petite pièce pour les enfants, je ne sais pas. Il y a peut-être aussi des limites au niveau des finances. Il y a peut-être aussi des frères et sœurs qui sont maintenant malades et qui ne peuvent plus assurer leur service au sein de l'église. Mais j'aimerais qu'on retienne ce matin ceci. Chaque assemblée dispose des mêmes ressources spirituelles, à savoir déjà la présence du Saint-Esprit qui fait vivre l'Église, qui la met en mouvement, qui la fait avancer. Est-ce que vous voulez aller de l'avant ce matin ? Le Saint-Esprit qui est le seul capable de convaincre, d'équiper pour un service pleinement efficace. Chaque assemblée dispose également des promesses de Dieu contenues dans sa parole. Vous avez votre Bible ce matin. Chaque assemblée dispose également de ce privilège de s'approcher de Dieu par la prière. Et par la prière, elle dispose également de ce privilège d'avoir cette capacité à se mettre à l'écoute du Seigneur. Et donc, à avancer dans le droit chemin pour faire sa volonté et non la nôtre. Je voudrais qu'on lise ensemble cette parole de Jésus-Christ dans l'évangile de Luc au chapitre 12. Luc 12 et on va prendre au verset 32. Luc 12, 32. Vous y êtes ? Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen, amen. Il a plu à votre Père, dans sa bienveillance, de vous donner le royaume. Je voudrais maintenant donner ici le contexte général des deux passages que nous allons lire. Nous sommes là au premier siècle de notre ère, entre 94 et 96 après Jésus-Christ. Nous sommes également là un dimanche comme aujourd'hui, à plus de 3000 km d'ici, à plus de 39 heures de route également. Eh bien, en ce temps, un serviteur du nom de Jean fut saisi par l'Esprit de Dieu et a entendu derrière lui une voix forte semblable au son d'une trompette. Vous reconnaissez le livre de l'Apocalypse. Cette voix lui disait « Inscris ce que tu vois sur un rouleau et envoie-le aux sept églises suivantes. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Remarquez tout d'abord que ces sept églises, ce n'est pas, je dirais, les grandes églises de l'époque à qui est envoyée cette lettre. Ce n'est pas l'église de Jérusalem ou l'église de Corinthe ou bien encore l'église de Rome, mais sept églises d'Asie mineure, actuellement la Turquie, et donc à proximité de l'île de Patmos, là où Jean était prisonnier. Là, Jean voit et entend des choses qui appartiennent à une autre réalité. Il découvre tout d'abord sept chandeliers d'or, qui représentent donc les sept églises que j'ai précédemment nommées. Et au milieu de ces sept chandeliers d'or, Jean voit Jésus. Il voit Jésus non pas crucifié, mais il voit Jésus glorifié. Et la Bible nous dit que Jésus marche au milieu de ces chandeliers d'or. Nous sommes là dans Apocalypse 2, 1, pour ceux qui prennent des notes. Le Seigneur glorifié marche donc au milieu de son chandelier d'or, ce qui veut dire qu'il est là, présent parmi nous. Il est proche de chaque église dont il connaît la situation. Nous allons le voir. Au début de ce message, je vous ai dit que j'aimerais m'entretenir avec vous sur l'action de comparer. Alors la comparaison, je dirais qu'elle peut parfois être source de découragement. Elle peut parfois apporter également, entre guillemets, la paralysie. Mais la comparaison peut aussi, parfois, avoir du bon. Elle peut nous stimuler, elle peut nous encourager, elle peut nous encourager à nous remettre en question et donc à progresser, à aller de l'avant. Et vous m'avez dit tout à l'heure, j'espère pas pour me faire plaisir, mais que vous vouliez aller de l'avant. Je vous propose donc ce matin de comparer deux églises. En examinant une première lettre adressée à l'église de Smyrne, puis une seconde adressée à l'église de Laodicée. On va prendre ensemble Apocalypse chapitre 2. Apocalypse 2 du verset 8 à 11. Apocalypse 2, versets 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Tout d'abord, remettons-nous peut-être dans le contexte de l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, donc géographiquement, elle se trouvait dans la ville que l'on appelle aujourd'hui Izmir, donc en Turquie. Elle possédait un port à l'abri dans un golfe et on pourrait dire qu'elle représentait une plaque tournante du commerce. Une ville donc qu'on pourrait qualifier de prospère, mais qui était également dévouée à Rome, qui, à cette époque, dominait le monde. Ce qui veut dire que dans cette ville, l'empereur devait y être adoré. Et donc, les chrétiens de l'époque se trouvaient dans une situation difficile, délicate. Parce que s'ils ne se soumettaient pas à Rome, bien ça risquait d'être interprété comme un acte de trahison. Et cela pouvait entraîner l'emprisonnement, voire la mort. Deuxième point, pour présenter un petit peu Smyrne. La rue la plus célèbre à l'époque, c'était la rue de l'or. D'un côté de cette rue, il y avait le temple de Zeus. De l'autre, le temple de Cybèle. Cybèle, c'est la déesse de la puissance de la nature. Et entre ces deux temples, eh bien, se trouvait le temple d'Apollon, donc le dieu de la lumière, de la poésie, de la musique. Il y avait également le temple d'Asclépios, dieu de la médecine, d'Aphrodite également, donc la déesse de la beauté, de l'amour. Voilà, je dirais de façon résumée, ce qu'était Smyrne aux yeux du monde à l'époque. La Bible ne parle pas de la fondation de cette église. La ville n'est pas mentionnée non plus dans le livre des Actes. Et tout ce que nous pouvons apprendre de l'église de Smyrne se trouve ici, donc dans cette lettre. Verset 8, « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » Premier point de la lettre, donc, le Seigneur Jésus-Christ, on va dire qu'il se présente de façon adaptée à l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, c'est une église qui souffre, qui connaît l'affliction. Les chrétiens sont calomniés. L'église est pauvre et on pourrait dire qu'elle va au-devant de la persécution. Les chrétiens doivent se préparer à souffrir parce qu'ils aiment Jésus. Certains seront jetés en prison, mais Jésus rappelle dans cette introduction que celui qui était mort, car il a souffert pour eux, afin que leurs péchés soient pardonnés, eh bien, celui qui était mort est maintenant à nouveau vivant. Il est revenu à la vie, car il a remporté la victoire sur la mort. Et il nous laisse ce matin cette promesse, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le Seigneur va dire également, voici ce que dit le premier et le dernier. Le premier et le dernier. Titre que l'Ancien Testament attribuait à Dieu. Dans Ésaïe 44, 6, ne cherchez pas, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. » Et quatre chapitres plus loin, Ésaïe 48, 12, il est écrit « Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi. » Moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Donc ici, Jésus proclame sans ambiguïté qu'il est aussi Dieu. Deuxième point pour notre lettre, le Seigneur Jésus-Christ, il va approuver l'église de Smyrne. Il va l'encourager. Et un petit peu plus loin, au verset 10, il va lui donner des instructions. Je poursuis la lecture. Donc verset 9, « Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui te disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Je connais ton épreuve, ta détresse et ta pauvreté dans laquelle tu vis, et pourtant, en fait, tu es riche. » Jésus-Christ connaît son Église. Il sait exactement ce qu'elle traverse. Il est au courant de la situation. Elle est peut-être pauvre aux yeux du monde, mais elle est riche aux yeux de Dieu. Bien que tu sois riche, lui dit le Seigneur, richesse spirituelle, voilà la véritable richesse que nous devrions rechercher. Vous êtes toujours avec moi ? Dans l'épreuve et la souffrance, l'Église, elle ne s'effondre pas. L'Église, elle tient bon. L'Église, elle demeure, elle reste ferme, elle reste fidèle. On pourrait dire qu'elle vit et elle meurt pour son Seigneur. C'est bien là une partie de l'Église d'aujourd'hui. Pensons à nos frères et sœurs qui sont persécutés parce qu'ils aiment Jésus. La Corée du Nord, l'Afghanistan, la Somalie, Syrie. C'est bien là donc l'image d'une partie de l'Église d'aujourd'hui et certainement l'image de l'Église de demain. Verset 10, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Le Seigneur ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Troisième point de la lettre, le Seigneur Jésus-Christ va faire des promesses à l'église de Smyrne. La lettre se termine par une promesse au vainqueur. Il recevra la couronne de vie, c'est-à-dire le prix de la vie éternelle. Il n'aura pas à souffrir la seconde mort. La transcription parole vivante dit « Elle ne pourra pas le toucher ». La première mort, vous le savez, c'est la mort physique, alors que la seconde, elle est spirituelle et éternelle. Le chrétien n'aura donc pas à craindre le jugement final, la seconde mort. On peut lire dans Apocalypse 20 et 21. Donc ici, dans cette lettre, Jésus-Christ adresse, je dirais, une lettre d'approbation. Il l'encourage, l'Église. Il l'encourage à persévérer, à continuer ses efforts. Et il lui fait des promesses. Voyons maintenant l'Église de Laodicée. On va faire une lecture dans Apocalypse 3, à partir du verset 14. Apocalypse, chapitre 3. Verset 14. Alors cette lettre, comme les quatre autres d'ailleurs, elle est écrite selon le même schéma. On va y retrouver donc les trois points que j'ai cités précédemment. Premier point, le Seigneur Jésus-Christ se présente de façon adaptée, cette fois-ci à l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Jésus-Christ s'attribue donc ici le mot hébreu « Amen ». Il est l'Amen, c'est-à-dire qu'il est vrai. Ésaïe 65, 16 nous dit ceci, je vous fais la lecture, « Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. » Et le mot « vérité », c'est le mot hébreu « Amen », par le Dieu de l'Amen. Je poursuis, « Et celui qui jugera dans le pays jugera par le Dieu de vérité », hébreu « Amen ». Écrit au messager de l'Église de Laodicée, voici ce que dit celui qui s'appelle « Amen », celui qui a rendu fidèlement témoignage à la vérité. Donc cette introduction, elle insiste sur la véracité de Christ, sur sa fidélité, afin certainement que l'Église de Laodicée, elle prenne conscience de son infidélité. Elle prenne conscience qu'elle n'est pas vraie, qu'elle s'est laissée entraîner par le monde, qu'elle est pauvre spirituellement. Et qu'elle est malade. Elle est tiède, lui dira le Seigneur. Je poursuis la lecture, verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ici, le Seigneur n'approuve pas l'Église. Au contraire, il va la réprimander. Il va lui faire des reproches sévères. Et puis nous le verrons un petit peu plus loin, il va lui donner également des instructions. Alors, c'est quoi le diagnostic du Seigneur ? Eh bien, le diagnostic, en quelques mots, les chrétiens sont tièdes. Afin d'illustrer ceci, je voudrais partager avec vous une courte anecdote. Il y a plusieurs années de cela, dans la montagne, un alpiniste décède. Et un jeune homme a été affecté de façon importante par ce décès. Il a été impressionné. Et quelqu'un à côté de lui lui demande « Que préfères-tu ? Mourir de froid ou mourir de chaud ?» Alors le jeune homme réfléchit, il hésite, puis il répond « Je préfère mourir de tiède. » Sans le savoir, il avait prononcé une profonde vérité. Parce que c'est vrai, spirituellement, on meurt d'être tiède. Souvenons-nous des disciples d'Emmaüs qui étaient en train de se dire « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous ?» Lorsque Jésus nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures, est-ce que notre cœur ce matin, il brûle pour le Seigneur ? L'eau froide, vous le savez tous, elle rafraîchit. On prend de l'eau chaude, par exemple, quand on est malade, on met un petit peu de citron dedans, un petit peu de miel, c'est bon pour la gorge. Mais l'eau tiède, vous en avez déjà bu de l'eau tiède ? Si. Vous n'êtes jamais trompé avec le robinet ? Non ? Ah, je pensais que j'étais le seul à m'être trompé. Je me suis dit, mince, quand on s'est trompé et qu'on n'a pas fait attention, on n'a pas vu et qu'on boit de l'eau tiède, c'est bon ou c'est pas bon ? C'est pas bon. Qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps ? On recrache. On recrache. Effectivement. Jésus va leur dire « Je te vomirai de ma bouche. » Ça, c'est une expression forte, ne trouvez pas ? C'est une expression qui traduit le dégoût, parce que l'eau tiède, c'est pas bon. Verset 17. « Parce que tu te dis « Je suis riche. » Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. L'Église tiède de Laodicée, elle dit donc, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Alors, cette Église, elle n'a peut-être pas renié le Seigneur. Mais en tout cas, elle montre elle n'a pas vraiment besoin de lui. Quel contraste avec l'église de Smyrne, qui était, je dirais, riche spirituellement, et celle-ci qui est pauvre spirituellement. Alors, le diagnostic est posé, le diagnostic divin est posé, et lorsque vous allez chez le docteur, après le diagnostic, eh bien, il vient le traitement. On vous donne un traitement, la plupart du temps, ou du repos. Le Seigneur va lui donner des instructions. Verset 18. « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Cette église, en fait, elle est aveugle. Je dirais qu'elle est aveugle sur son état de santé. Elle ne se voit pas malade. Je ne suis pas malade, tout va bien. Alors Jésus, dans son amour, dans sa bonté, dans sa patience, il va lui donner un traitement en trois points. Premièrement, il va lui donner un traitement, je dirais, de choc, un électrochoc. Si on peut dire, je voudrais choquer personne ce matin. Je te vomirai de ma bouche. Attention, je vais te rejeter de moi. Rends-toi compte de ce qui se passe. Puis ensuite, c'est la radio, le scanner ou l'IRM. voilà ce que tu es vraiment. Voilà ce que voit Jésus. Tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Entre parenthèses, ce que le Seigneur voit de nous est toujours vrai. L'opinion qu'il a de nous, c'est toujours la bonne. Et c'est une grâce, une faveur qu'il nous fait lorsqu'il nous montre ce qu'il pense de nous. Parce que si on accepte son diagnostic, eh bien tous les espoirs sont permis. Après l'électrochoc spirituel, après le scanner, vient la repentance, le changement de direction. Verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors là, je me suis dit, si le Seigneur est à la porte, c'est qu'il n'est pas dans l'église. Ça va, la porte est ouverte. Là. Imaginez, la porte est fermée. Le Seigneur se tient à la porte. Lui qui devrait être dedans, comme maître et seigneur, eh bien, il se retrouve dehors comme un étranger. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il demande à rentrer. Il frappe. En fait, il frappe pour rentrer chez lui. Quel amour, quelle patience, quelle miséricorde. Le Seigneur attend dehors et l'église de Laodicée, elle doit choisir. Soit rester comme elle est, soit se repentir et ouvrir la porte. Remarquez que ce passage, il est déjà pour les chrétiens. Parfois, on utilise ce passage effectivement pour les inconvertis, faire un appel. C'est vrai, le Seigneur Jésus également se tient à la porte de ton cœur ce matin. Il frappe dans l'espoir que tu vas lui ouvrir. Et la décision, elle t'appartient. On est libre de choisir, d'accepter le cadeau que le Seigneur veut nous donner. Le Seigneur, il veut souper avec toi. Il ne veut pas juste prendre un fast-food, un repas rapide. Il veut souper avec toi. Il veut vivre en toi. Il veut vivre avec toi par le Saint-Esprit. Troisième point, le Seigneur Jésus-Christ fait des promesses. Verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Je ne sais pas ce qu'elle évoque pour vous, la croix. La croix, c'est là que nous avons été touchés par le Seigneur Jésus-Christ, par l'amour de Jésus, son amour inconditionnel, sans condition. C'est là que nous avons pris la décision de marcher avec lui et d'aller jusqu'au bout. Parce que Jésus est allé sur la croix, l'Église, son Église victorieuse, son épouse qu'il aime, elle pourra s'asseoir sur son trône. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. La croix, ce n'est pas la défaite. Vous le savez, c'est la victoire. La croix, c'est la porte d'entrée vers le trône. En conclusion, j'espère que je ne déborde pas trop. Non. Bon. En conclusion, il y a dans le livre de l'Apocalypse, un message adressé aux églises de l'époque. Et je crois qu'il y a également un message pour l'église d'aujourd'hui. Verset 22, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je voudrais faire une dernière lecture avec vous dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 5, et à partir du verset 14. Matthieu, chapitre 5, et à partir du verset 14. Vous y êtes ? Vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas Aymeric qui parle, hein. Jésus. Prenez-le comme ça. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, ne cherchons pas le succès, mais cherchons la gloire de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus, ou par-dessus le marché, j'ai entendu peut-être, pour certaines versions, effectivement. Il y a là, je reviens à mon point de départ, l'empreinte. L'empreinte. Le Seigneur nous a marqué de son empreinte et a mis l'Esprit comme un gage dans notre cœur. 2 Corinthiens 1, 22. Vous avez été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens 1, 13. Nous savons, la puissance, elle ne vient pas de nous. La puissance, sa puissance, elle s'accomplit aussi dans notre faiblesse. Le Seigneur nous a dit, va avec la force que tu as. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Je voudrais terminer par la prière. Seigneur, nous tenons là devant toi. Tu sondes et tu connais. Tu as dit, je connais. Toi, tu sais. Tu sais, Seigneur, tu connais. Nous sommes à nu devant toi, Seigneur, rien n'est caché. Je prie, Seigneur, pour ton Église que tu aimes, Seigneur. Oui, tu es mort pour chacun de nous, Seigneur, mais tu es mort aussi, Seigneur, pour rassembler ton peuple. Nous qui étions dispersés, Seigneur, tu nous as rassemblés sous tes ailes. Et une partie de ton peuple est là ce matin, Seigneur, pour toi, avant tout pour toi. Seigneur, je prie pour que tes mains bénissantes se posent sur mes frères, sur mes sœurs. Toi, tu connais les défis de chacun. Tu connais les défis de ton Église. Seigneur, encore une fois, toi, tu sais. Tu sais, mais Seigneur, nous savons que ta bonté et ton amour, Seigneur, on ne peut pas le compter. Ils sont immenses. Seigneur, je prie pour que l'amour, ton amour, Seigneur, remplisse ce lieu, remplisse nos cœurs. Ta paix, Seigneur, non pas la paix des hommes, mais la paix du ciel qui surpasse toute intelligence, elle remplisse les cœurs. Je prie, Seigneur, pour que ta joie, elle remplisse également nos vies. Non pas, Seigneur, la joie des hommes, mais la joie que le Saint-Esprit nous donne, Seigneur. Tu nous donnes de voir plus loin qu'aujourd'hui. Tu nous donnes de voir, Seigneur, plus loin, demain, après-demain. Aide-nous à voir comme toi, tu veux que nous voyons, Seigneur, ceux qui nous entourent, nos frères, nos sœurs, mais aussi, Seigneur, les personnes du dehors. C'est vrai, Seigneur, ta volonté, c'est que tous soient sauvés. Parce que tu aimes, Seigneur. C'est là, Seigneur, en toi. Tu es amour, Seigneur Jésus. Aide-nous à être ces flambeaux que tu veux que nous soyons, à briller, Seigneur, dans ce monde de ténèbres, à, Seigneur, être cette porte ouverte qui donne à toi. Que la gloire, elle te revienne, Seigneur. Que l'honneur te revienne. Et que, Seigneur, dans nos vies, nous ne recherchions pas, Seigneur, notre confort, mais que nous recherchions à faire ta volonté. Ton royaume, ton règne, en premier. À toi la gloire, Jésus. Amen.